Bienvenue dans le studio cosmique de l'Observatoire de l'Espace. Tout au long de cette saison, nous invitons des artistes à explorer les issues ouvertes par l'hypothèse d'un centre d'art contemporain qui pourrait s'arrimer à l'ISS et avec elle tourner en orbite autour de la Terre. Au fil des différents entretiens, nous voyons se dessiner un panel de réponses qui permettent d'imaginer de plus en plus précisément comment les œuvres incorporent les contraintes d'un accrochage en apesanteur et intègrent plus ou moins la thématique spatiale au motifs qu'elles sont appelées à être exposées dans ce premier centre d'art extra-atmosphérique. Pour le quatrième entretien de cette série, nous recevons aujourd'hui Sylvie Bonneau. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous mettre à la place d'un satellite ?
Régulièrement.
Régulièrement ? À quelle fréquence à peu près ?
Tout dépend des phases de production dans l'atelier.
Ah, c'est une question de phase de production. Donc vous tournez autour de votre atelier.
Oui.
Et c'est là que vous vous satellisez par rapport à ce que vous produisez ?
Absolument.
D'accord. Et ça vous donne donc un autre rapport à votre travail ?
Gravitationnel.
Vous le pensez vraiment comme gravitationnel, le rapport à votre travail ?
Tout dépend des sujets. Des sujets de recherche, des contextes de réalisation.
Oui. Parce que qui dit satellite, dit de rester à une distance à moyennement contenu.
Tout à fait, mais la pratique, les procédés mis en œuvre pour l'altération photographique nécessitent une forme de stabilité. Je ne peux pas prétendre à l'orbital en tant que tel,
ouais.
Mais on domine son plan tout en essayant de ne pas dévier.
Et on garde une certaine vitesse pour pouvoir ne pas tomber.
C'est ça.
Avez-vous déjà ressenti une attente excessive au démarrage d'un voyage en ascenseur ?
Une attente excessive ?
D'attendre une expérience plus...
plus folle ?
Plus folle qu'elle ne le serait.
Est-ce qu'on attend autant d'un ascenseur ?
Donc plutôt pas alors ?
Plutôt pas.
Ouais. Avant d'évoquer plus en détail vos travaux et vos projets artistiques pour l'ISS, quelques questions sur vos préférences. C'est devenu une question rituelle dans Studio Cosmique. Parmi tous les objets qui sont déjà dans l'ISS, auxquels pourriez-vous vous identifier ?
Naturellement, je dirais le scaphandre dans sa dimension seconde peau, mais plus spécifiquement et un peu en déport par rapport à la question, j'aimerais quelque chose qui est allé et qui en est revenu.
Ah, donc quelque chose qui est maintenant sur Terre.
C'est ça.
Mais n'importe quoi.
Non.
Ah, quoi ?
Les roubles écrasés.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a cette tradition qui vient de Baïkonour, où nous, les cosmonautes, spationautes, taïkonautes et autres astronautes qui sont partis de là-bas, et les scientifiques et les ingénieurs qui participaient à la mission, plaçaient un rouble sur les rails de Soyouz avant sa mise sur la tulipe, sur son pad de lancement, pour porter chance.
D'accord. Et donc, c'est cet objet-là ?
Ces objets-là, puisque chaque personne ayant travaillé à bord de l'ISS, au départ de Baïkonour, a théoriquement son rouble écrasé par mission.
Ah oui. Mais parce que ma question était de savoir auquel des objets vous pourriez vous identifier. Ça veut dire que vous vous sentez écrasé ?
On l'est tous plus ou moins, mais on se relève. Non, je pense que voilà, entre l'objet totem, je partirai sur le scaphandre, je sais qu'Erwan Venn l'a aussi évoqué, mais je ne me vois pas trop ailleurs. J'ai découvert l'existence d'un haut fourneau, Ça me plaît assez aussi, mais de là à s'y reconnaître, je ne pousserai pas.
Parmi les titres d'une expo dans l'espace, vous préférez « J'avance donc je flotte » ou « 23 heures pour en arriver là » ?
23 heures pour en arriver là.
Pourquoi ?
Parce qu'on se demande quand même. Enfin, moi, je me demande souvent pourquoi je mets autant de temps pour faire si peu de choses.
Et donc, mettre 23 heures pour arriver dans l'ISS, ça vous paraît effectivement un peu démesuré par rapport à l'expérience que ça donne ?
Ou très raisonnable, tout dépend de là où on part. Je parle de capacité, de compétence.
Et pour le sous-titre, vous préférez « Un tuyau jamais n'abolira le hasard » ou « La magie est au bout du couloir ».
La magie est au bout du couloir.
Parce que ça rime avec « Un tuyau n'abolira le hasard ».
Oui, et puis la magie et l'envoûtement ou la fascination que permet spatial peut tenir à peu de choses, en fait. On n'est pas toujours dans un déploiement délirant de moyens.
Ah oui, donc vous pensez que d'être en lieu confiné, comme par exemple un couloir, n'empêche pas la magie ?
Je pense que la simplicité est un départ pour de nombreuses destinations.
Donc l'idée en soi de faire centre d'art dans l'ISS, déjà, vous paraît potentiellement très possible ?
Oui, puisqu'elle peut même, je pense même que le centre d'art pourrait avoir lieu dans une couchette, dans la couchette d'un des occupants.
On en reparlera au moment de votre projet, je pense, de cette déjà hypothèse. Et dans le mot astromobile, qu'est-ce que vous préférez ?
Astro.
Pourquoi ?
La mobilité, c'est une notion qui moi me fait moins rêver.
Oui.
Je pense que le terme astro est davantage un moteur de rêve.
Depuis qu'on pose cette question aux participants du studio cosmique, vous avez tous choisi soit astro, soit mobile. Vous n'avez jamais décomposé le mot davantage.
J'ai essayé en amont de cette émission.
Oui.
Je ne suis pas convaincue.
C'est une des rares questions qu'on vous a fournies à l'avance.
C'est ça.
Et vous n'avez pas voulu le bi ou le stro.
Bistro.
Ah oui. J'ai pas fait exprès. Depuis 1999, l'OSR, le Online Star Register, propose d'acheter des étoiles et d'officiellement lui donner son nom. Vous préférez avoir une étoile Sylvie Bonneau pour 49€ ou une constellation Sylvie Bonneau pour 79€?
J'ai aucune envie d'en posséder ni d'être...
Ah oui, l'un ni l'autre.
Non, bon. Je pense qu'il faut les laisser libres.
Et si on vous interroge sur votre rapport à la matière noire de l'univers, vous répondez quoi?
Abyssal.
Point.
Point.
Parmi vos œuvres spatiales, il y a des œuvres qui changent d'état et qui ont l'air de vouloir mettre en avant qu'elles n'ont pas besoin de vous pour évoluer. C'est volontaire de laisser les œuvres à leur propre parcours?
Oui, je pense. J'imagine qu'on soit on veut maîtriser de bout en bout et on fait en sorte que ça soit une stabilité à toute épreuve, peu importe l'état ou le devenir. Ce qui m'intéresse, c'est ce point d'équilibre entre ce qu'on induit de maîtrise et ce qu'on laisse faire, ce qui nous échappe. Comment composer avec quelque chose qui est par nature peu gouvernable.
Donc ça veut dire que la mise sous orbite est encore une fois un bon modèle pour l'œuvre d'art.
Ah, il est parfait.
Parfait, carrément.
Il est parfait parce qu'on ne le connaît pas.
Oui. Vous avez été l'une des trois artistes lauréats d'un appel à projet sur les archives spatiales de l'histoire des ballons stratosphériques en France, qui avait été exposé dans le cadre de l'exposition Transition pour Nuit Blanche 2017. Vous avez alors réalisé les aéroplis. L'idée de plier...
C'est un mécanisme, une forme qui induit de la souplesse. Et en l'occurrence ici, avec le matériau de la gélatine argentique que je mets en œuvre, la gélatine, quand elle est dans son état premier, directement sortie du tirage, est rigide. Mmh. Ce qui est assez fascinant, c'est de quelle façon on peut conférer une flexibilité, une souplesse à un corps rigide. La déformation qu'on peut voir dans les résultats, elle est assez illusoire. On se plie d'un côté, on le retrouve de l'autre côté, en fait. On ne perd pas de matière. Par exemple, les plis de la gélatine, elle est translucide, ce sont des gammes de gris. Quand on cumule, on plie deux gris clairs, trois couches de gris clair, on va avoir un gris moyen, voire des gris anthracites.
Ah oui, d'accord, donc là, le pli est une technique d'une recherche chromatique.
Oui, et puis c'est une réserve, le pli.
Oui.
Mais... Et ça, je trouve que c'est un potentiel poétique assez fabuleux.
Oui, mais alors précisément, comment vous faites ressortir le potentiel dans son dynamisme? Parce que manifestement, vous devriez être frustré par un état qui se fixerait.
L'état dans lequel la gélatine, si on parle bien d'elle, ouais, se fixe, c'est une acceptation de la chose. C'est-à-dire que soit elle peut être poussée plus loin, soit on l'accepte telle qu'elle tombe. Mais on a une marge de manœuvre. On ne peut pas tout faire. On peut parfois revenir en arrière, mais c'est un compromis.
Vous avez perfectionné un procédé de mue qui consiste à appliquer un flâneur au creux d'un polygone suspendu qui évoque un ballon à l'échelle du corps du scientifique. J'ai pas très bien compris cette description, vous pouvez me l'expliquer?
Qui a fait ça?
Je ne sais pas, ça circule dans la littérature sur votre travail.
Non, je me souviens très bien que le titre de l'image empruntée aux archives du CNES sur ces essais de ballon s'appelait « Forme naturelle ». Je pense qu'il était intéressant de faire rentrer dans cette coque polyèdre de résine, donc quelque chose de rigide, à angle, à arête déterminée, un corps souple. Mmh. Un corps souple qui finalement l'habite sur une petite surface. L'œuvre en tant que telle doit faire un diamètre de 185 cm pour une profondeur de 70, si mes souvenirs sont exacts. Néanmoins... Il y a cette improbabilité de la souplesse et de la rigidité. Le procédé de la mue permet ça. Mmh.
Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites faire à cette mue?
Je fais épouser l'image à un corps qui ne lui est pas destiné.
D'accord. Et donc, à l'arrivée, ce que vous exposez, c'est...
C'est cette rencontre qui, aux prémices du travail, était, je dois dire, franchement très chaotique.
Oui.
Les probabilités de réussite me semblaient franchement limitées. Et puis, plus le travail évolue, plus la transposition, la repose, pour être exact, permet d'accepter la nature, la matière de du support, en fait. C'est-à-dire aller chercher la rugosité, les aspérités, il est révélé par la gélatine. Ce qui veut dire que si aujourd'hui je devais refaire cette pièce, qui est une question que je me suis posée, je pense que je m'y prendrais autrement. Puisqu'à l'époque, le défi, c'était vraiment de faire rentrer l'image, sa peau, cette peau de photographie, dans cette forme dédiée, issue des réflexions et des atlas hein, sur les ballons stratosphériques produits à l'occasion, et de créer une cohabitation comme ça. Aujourd'hui, je pense que le travail, le choix de l'image et le travail de peau seraient complètement différents.
Quoi qu'il en soit, l'enjeu resterait, si vous le refaisiez, de creuser l'espace de recherche autour de l'image.
Absolument. Et la rencontre entre les plis des ballons et ceux de la gélatine était fabuleuse. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient encore aujourd'hui. Je cherche le ballon.
Et le fait de détourer, pour vous, ça revient à quoi ? À laisser toute sa place aux formes ou au contraire à contrarier leur naturel ?
Par détourer, qu'est-ce que vous entendez ?
Bah, justement, par cette idée de mu, il s'agit quand même d'aller chercher l'entour, quoi, enfin, ou de faire ressortir ce qui pourrait encadrer.
En fait, c'est intéressant comme question parce que le bord de l'image, dans mon travail, il est finalement assez secondaire. Soit on accepte le bord du tirage, donc les limites de la captation photographique, soit j'accepte et je choisis les bords du support. Mmh. Les deux cohabitent difficilement. Mais je pense que j'ai un peu dévié de la question.
Ben oui, mais elle était faite pour ça. Alors on verra tout à l'heure comment est-ce qu'un centre d'art dans l'ISS pourrait être une opportunité peut-être de détourage à l'échelle cosmique. En attendant, je signale qu'on peut trouver un atlas de vos aéroplis dans le numéro 15 de la revue Espace. On peut dire que vous avez un attrait quasi systématique pour le hors-champ.
Oui, et le hors-champ constituait vraiment une grande problématique dans cette commande, puisque les images qui m'étaient confiées, à la fois par les archives du CNES et celles de Madame Régipa, c'était pour la première fois des images que je n'avais pas faites.
Donc, Madame Régipa, c'est elle qui avait les archives des ballons stratosphériques.
Oui, puisqu'elle et son mari, Monsieur Régipa, dirigeaient l'atelier de couturière qui fabriquait ces ballons, qui faisait ces soudures dans le Millar. Toujours est-il que je me suis un peu perdue dans la question.
Ma question, c'était votre attrait pour le hors-champ, mais oui. Au-delà même des ballons stratosphériques, je veux dire.
Oui, donc ces images, je n'en connaissais rien que ce que j'en voyais, et ce qui a induit pour moi au début, sur les premières semaines d'études, une forme d'incapacité. Mmh. Ne pas savoir ce qu'il y avait autour, ne pas maîtriser quel fragment du cadrage je gardais, c'était compliqué. Mmh. Et puis finalement... je me suis autorisé la construction d'un récit purement subjectif autour de ces images.
Alors, quand vous allez à Baïkonour, par exemple, donc là, c'est un autre travail, il n'est plus question de ballons stratosphériques, mais là aussi, quand même, vous allez chercher à photographier ce que les archives spatiales ne montrent pas.
Ou à fabriquer l'archive spatiale d'un autre point de vue.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le potentiel de réflexion et de production permis par les archives m'ont amené à la nécessité, à un moment donné dans le travail, de les produire moi-même. C'est-à-dire se dire que ce que je voulais étudier et expérimenter, c'était la réalité du terrain, la réalité de l'expérience, puisque le spatial a cette chose particulière qu'à chaque moment stratégique, il rentre dans l'histoire. Donc, que n'importe qui sur Terre photographie une fusée, un lanceur, peu importe, il produit finalement une forme d'archive spatiale. Donc, ça pose la question du statut de ces images, c'est-à-dire quand elles sont produites dans le champ d'activité spatiale, je passe aux professionnels de l'espace, et quand elle est produite par des touristes, nous autres, est-ce que ça change sa pertinence ? Est-ce que ça change sa justesse ? Qu'est-ce que ça dit d'autre de la chose ?
Mais quand vous dites « nous autres » d'office, ça pose que vous n'êtes pas une touriste tout à fait comme les autres. Donc quand vous allez à Baïkonour, vous n'allez pas photographier la même chose que les autres touristes.
Mais je suppose que chaque touriste se sent aussi unique que légitime.
Et alors, vous allez photographier quoi à ce moment-là ?
D'autres touristes.
Ah ! Et ça, il n'y a pas beaucoup de touristes, il faut photographier les autres touristes.
Non, mais face à une insistance à se mettre dans mon champ, j'ai décidé d'utiliser, comme on peut le voir dans un autre numéro de la revue Espace, c'est-à-dire que...
Dans le numéro 20.
Dans le numéro 20, tout à fait, mythologies individuelles, la présence du touriste à cet endroit, même si j'en endossais la responsabilité d'être touriste moi-même, je ne supposais pas sa ténacité, son endurance et sa porosité au point de vue des autres.
Et donc vous en avez fait des sortes de hors champ de la carte postale.
Hors champ de la carte postale. Et puis surtout, je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant de montrer le touriste dans son habitat, en pleine performance de son statut du moment, guettant le lanceur, se couchant sur les rails de Soyouz pour en épouser la perspective. Des moments quand même cruciaux, des situations typiques de Martin Parr qui se produisaient au pied d'un monument dédié à Spoutnik à côté du pas de tir de Soyouz à ce moment-là. Des positions incongrues, des couleurs chatoyantes qu'on ne soupçonne pas dans le milieu professionnel du spatial.
Mais vous aviez conscience, quand vous disiez en début d'entretien vouloir être éventuellement un rouble écrasé, que ça amène des touristes qui s'allongent sur vous?
Je pense qu'il faut bien choisir son touriste.
Alors, vous vous êtes intéressé par ailleurs au site de lancement Soyouz au sein du centre spatial guyanais que vous avez d'abord regardé comme un paysage. Et là, vous avez pu vérifier grandeur nature qu'il y a bien plus de choses à faire dans ce genre de circonstances que d'être fasciné.
Oui. Ne pas oublier de s'hydrater.
Oui.
Par 47 degrés, 5 litres d'eau, c'est une constante vitale. Non, plus sérieusement, la question...
C'est sérieux déjà.
C'est très sérieux. Je dois préciser aussi qu'on évapore les 5 litres d'eau par jour. On sèche sur pied.
Oui.
Ce qui n'est pas un problème en Guyane, où on est hydraté en permanence, sans même beaucoup boire. On parlait de la question du touriste spatial. Il est important pour lui de s'adapter à son environnement de façon à y survivre le temps de son expérience. Mais plus sérieusement, la question du paysage est très très importante, puisqu'elle on parle de Baïkonour comme du centre spatial guyanais, comme de sites qui sont des portes de l'espace sur Terre. Moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là. C'est ce moment où on s'extrait de la croûte terrestre, comment on y parvient, avec quel cérémonial et quel paysage. Que ce soit Baïkonour et le fleuve mythique du Sirdaria ou le CSG avec la rivière Kourou, on est dans des territoires que tout oppose ou presque, mais qui se rejoignent sur des facteurs déterminants, une faible densité humaine aux alentours, des milieux naturels assez hostiles, chacun dans son genre, évidemment, on ne peut pas les confondre, mais ça dit quelque chose de ce qui est nécessaire à ce type de dispositif, d'infrastructure pour exister.
Mais ça laisse penser que les portes de l'espace ne sont pas forcément choisies dans les sites les plus propices à se rendre disponibles à l'espace ou
Si, au contraire, puisque on sait qu'en cas d'accident, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de monde autour. On juge la distance de sécurité d'1,7 km à Baïkonour ou de 5 km à Kourou. Néanmoins, moi j'ai eu le sentiment, en observant ces paysages spatiaux sur Terre se déployer, que l'intensité et l'hostilité du paysage étaient presque une condition sine qua non à son existence. Il y a une espèce de dualité entre ces étendues qui, que ce soit par l'intensité, on va dire, presque la brutalité de la forêt amazonienne qui est vraiment aux portes du centre spatial, ou la steppe, son aridité totale et cette chaleur brûlante, est quelque chose qui nous dit que notre capacité à survivre déjà à ce type d'environnement est limitée en tant que telle.
Chose très rare dans votre pratique, quand vous étiez à Kourou, vous avez capté un son.
Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur route de l'espace.
C'est l'appli Oise qui vous parle de la route de l'espace, et ça, vous adorez ?
J'adore. Pendant tout le temps de la résidence, et surtout la première fois quand Oise m'a indiqué de prendre la route de l'espace, moi j'ai été fascinée. Donc tous les jours, même si je connaissais la route, je mettais Oise pour pouvoir m'entendre conseiller de prendre la route de l'espace.
Ah, c'est rien que la mention de la route de l'espace par une appli.
Mais ça vous arrive quand, dans le quotidien, d'être route de l'espace ?
Moi, jamais.
Voilà, ouais. Avant ça, pareil.
Donc il faut aller jusqu'à Kourou pour s'entendre indiquer une route
voilà,
de l'espace.
Voilà, ou pouvoir le dire en russe ou en kazakh.
Vous l'avez fait aussi dans les autres langues ?
Pas du tout.
Ah. Et donc, à l'heure où nous enregistrons ce studio cosmique, on peut voir aussi dans la zone d'art contemporain du CNES votre exposition « Géographie d'une fusée ». Et là, au passage, donc, vous apportez la preuve qu'une fusée est une vaste entreprise touristique comme les autres.
Oui, touristique et de production, puisqu'il y a une usine de fabrication de Soyouz en Russie. 4 étaient en pièces détachées au centre spatial guyanais au moment du lancement de la mission VS-27. Et en fait, cette fusée est non contente d'être produite en série part de plein d'endroits. Et les endroits nécessaires à la mise en place de son lancement constituent d'autres géographies. Comme on peut le voir dans l'exposition, avec cette altération de l'image d'une antenne parabolique de la montagne des Pères, c'est une géographie de Soyouz et d'autres lanceurs. Le Carnot en est un autre point stratégique. Ce sont des géographies variables, à fonctionnalités variées, mais toutes dévolues au déploiement de la mise en espace du lanceur.
Mais alors, plus graphiquement parlant, en regardant les œuvres, on voit bien que ce sont aussi les plis des infrastructures qui vous intéressent, comme, encore une fois, pour détourer l'idée que tous les plis ne sont pas des lignes de force.
Les plis ne sont pas des lignes de force, et puis je pense que c'est important. Il y a une chose qui me semble importante de préciser, c'est quand on voit l'aspect de la mue, ce qu'on en dit, c'est qu'on y voit des craquelements, du craquelé. Comme le vernis, les vernis anciens, alors qu'effectivement, il s'agit de minuscules petits plis qui, quand ils se forment, se cristallisent. C'est la gélatine qui opère cette transformation d'état. Le détourage dont vous parlez aussi depuis tout à l'heure me semble un peu énigmatique, puisque c'est une notion nouvelle que vous m'apportez. Je n'ai pas l'impression de détourer, j'ai l'impression d'extraire des choses, d'en changer l'état, d'amener à nouveau un mouvement fluide, et flexible à un corps solide. Du coup, ça permet d'amener une chorégraphie au génie civil, d'amener quelque chose qui est antinomique avec sa nature.
Mais est-ce que l'aventure spatiale est alors susceptible de nous donner une définition plus précise de ce que peut bien être un faux pli ?
Qu'est-ce qu'un faux pli ?
Ben, je vous pose la question, parce que j'ai l'impression que vous pouvez donner une réponse plus originale que bien d'autres.
Pour moi, un faux pli, c'est celui qui arrondit un peu en biais.
Donc il a une intention, le faux pli.
Il a une intention et un manque de grâce dans son inclinaison, je dirais. Le faux pli, c'est celui qui...
Mais qui est volontairement disgracieux.
Est-ce qu'il a un libre arbitre ? Non, mais c'est une bonne question.
En tout cas, il est volontairement dysfonctionnel. Enfin, j'insiste sur volontairement, je ne sais pas, mais il est dysfonctionnel.
Le pli est un pli, je pense que sa fonction, au-delà de ça, elle est quand même assez limitée. Dans la pratique artistique, dans les procédés, pour moi, le pli, il amène des réserves, des parties cachées, il amène de nouvelles nuances de gris. Mais le pli, pour moi, le cauchemar, c'est le pli disgracieux, celui qui tombe mal et qui est irrécupérable, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est sur une partie stratégique de l'image. Le pli, il sert à cacher une chose pour montrer d'autres. C'est peut-être ça sa vraie fonction.
Parce que sur le plan d'une fusée, s'il y a un pli qui n'est pas prévu, ça peut générer des
erreurs. On parle d'un plan technique.
Oui, oui.
Je pense qu'il vaut mieux éviter.
Oui, il vaut mieux éviter, en effet. Le milliardaire japonais Yuzaku Maezawa a récemment donné la liste des 8 personnes qui l'accompagneront en 2023 pour un voyage spatial autour de la Lune à bord d'une fusée SpaceX. Ce sera la mission Dear Moon qui portera 8 artistes, dont un DJ, 2 photographes, un acteur, un chanteur. Vous feriez quoi à leur place ?
Est-ce que j'aurais envie d'y aller, c'est ça ?
Non, si vous étiez un de ces 8 artistes sélectionnés. Vous profiteriez de ce séjour, de cette mission Dear Moon pour faire quoi ?
À vrai dire, j'ai eu connaissance de cet appel.
Ouais. Vous avez pensé y candidater ?
J'ai réfléchi à l'hypothèse et si vraiment elle m'avait enthousiasmée, je pense que j'aurais trouvé les moyens d'envoyer quelque chose. Cette question, en fait, elle amène la question du tourisme en orbite, le New Space et...
Mais aussi du tourisme artistique, potentiellement.
Oui, c'est quelque chose qui ne me met pas à l'aise, en fait.
Vous savez pourquoi ? Vous l'avez analysé un peu ou...
Parce que finalement, ce qui m'intéresse vraiment, on l'a évoqué il y a quelques instants, c'est le départ de la Terre, c'est l'extraction du sol. Ce n'est pas tellement ce qui se passe là-haut. C'est ce moment où, par une épaisseur incalculable de prouesses, de connaissances humaines et techniques et une chance invraisemblable à certains moments, on est parvenu à s'extraire de la couche terrestre, d'aborder, de traverser l'espace d'une certaine façon. Ça, moi, je trouve ça prodigieux. Y aller, ça serait presque pour moi casser la rêve.
Ah oui, parce que ce serait définitivement tourner le dos au seuil du démarrage, en fait, du décollage.
Oui, et puis, est-ce qu'on rêve encore de ce qu'on a fait ? Est-ce que l'expérience est toujours un vecteur de fascination ? Non, mais c'est une vraie question.
Oui, oui. Bon, en tout cas, semble s'accélérer les questions très concrètes de produire de l'art dans l'espace, puisqu'on pourra bientôt voir le film Le Défi de Klim Shipenko, qui a été tourné dans l'ISS en octobre. On attend aussi le tournage d'un film qui vaudra à Tom Cruise de passer plusieurs des prochains mois dans l'ISS. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce genre d'expérience cinématographique ?
Est-ce que j'attends quelque chose de Tom Cruise ?
De Tom Cruise, une fois dans l'espace, je ne serais pas permis de poser une question en sujet, ça, quoi.
On va dire, je comprends l'attrait, je comprends les raisons de faire ce genre d'expérience, mais ce n'est pas du tout mon affaire.
Ça ne vous regarde pas, carrément. Parce que vous pourriez revisiter toute sa filmographie précédente comme le seuil de ce film à venir.
Moi, si on parle de filmographie spatiale, je suis plus encline à revisiter des moments de propagande, que ce soit celle de l'Ouest ou celle de l'Est. Mmh. Puisque là, on parle encore du rêve, on parle de quelque chose qui est intouchable. On y arrivera, le message dit on y arrivera parce qu'on est les meilleurs. On n'en sait rien si on y arrivera. Évidemment, mais une projection dans le futur, détachée de la réalité immédiate, qui fait que pour moi ça marche. Tom Cruise dans l'ISS, ça me fait rien.
Ah oui, parce que vous voyez que Hollywood à ce moment-là.
Je trouve qu'il y a une instrumentalisation. Oh là là,
instrumentalisation, oui.
Merci David Christoffel, qui est limitante, qui est limitante parce que d'un côté on a ces travaux de recherche qui sont menés par ces astronautes, spationautes, taïkonautes et cosmonautes, qui revêt quelque chose de l'ordre du sérieux, quelque chose de l'ordre de la communication, des agences qui sont derrière ou des entreprises qui sont derrière. Mais de se servir de ce site comme d'un théâtre au divertissement, pour moi, ça induit une dichotomie qui n'est pas évidente.
Ah oui, au point que ça fait décrocher des enjeux qui vous intéressent le plus.
Tout à fait.
Nous allons vous faire entendre une situation très spatiale et vous proposer de l'identifier. Alors, qu'est-ce qui peut bien être en train de se passer ?
Un gonflage de matelas pneumatique.
De matelas pneumatique ?
Ou de Zodiac.
On pourrait se gonfler d'espoir aussi, puisque c'est votre...
Oui, on sent pas la même résistance. Là, il y a la résistance. Il y a un contenant. Est-ce que l'espoir a un contenant ?
Bah, celui d'un film de propagande, par exemple. Qui se gonfle d'espoir avec contenant. Nous sommes maintenant à mi-parcours de ce studio cosmique. Et vous, dans la vie, quand est-ce que vous êtes sûr d'être à mi-chemin ?
Alors, je vous répondrai par une observation récente. Quand on a suffisamment avancé, je parle par exemple d'une marche, puisque pour le travail, la marche, l'expérience du lieu est vraiment importante. Quand on sent qu'à peine arrivé à la moitié, on est déjà fatigué. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est aura-t-on les jambes pour revenir ?
Donc, c'est plutôt un moment d'angoisse.
Je pense que c'est un moment où il faut être honnête et lucide sur ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller et dans quelle mesure on peut débloquer ce qui sera nécessaire à la suite.
D'accord, et là, vous le sentez plutôt bien pour la suite de l'émission ?
Assez bien, David.
Oui, d'accord, oui. D'accord. Alors maintenant que nous connaissons un peu mieux votre manière de vous acheminer, nous allons pouvoir découvrir plus en détail votre projet pour le Centre d'art contemporain de l'espace. Imaginons, vous voilà curatrice pour le Centre d'art Arimel ISS. Qui appelez-vous pour votre première exposition ?
Ses principaux occupants.
D'accord, donc ceux qui sont déjà là.
Oui.
Et vous leur faites faire quoi ?
Un projet pédagogique.
D'accord. Vous leur présentez comment ?
Je leur présenterai en fait d'abord un questionnaire de façon à déterminer un périmètre d'études commun qui s'orienterait sur ce qui fait la réalité du terrain et de l'espace pour eux dans un corps confiné. J'aimerais pouvoir proposer une recherche photographique. Puisqu'il ne manque pas de matériel, ni de ressources à bord, ni de compétences, pour les amener à peut-être produire une réflexion photographique sur ce qui est de l'ordre du quotidien et vraiment de la réalité, des sensations réelles, de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la communication, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'héroïsme, tout ce qui les rend en fait humains. Parce que ce qui m'intéresse le plus quand j'observe, je regarde des documentaires, des vidéos de ces personnes, c'est, J'ai envie de voir ou d'entendre ce qu'ils ne disent pas. Finalement, la précarité de cet état, d'être dans une toute petite boîte, dans un milieu intenable. En ça, moi, je crois qu'il y a une prouesse, plus que les muscles, la centrifugeuse et le génie scientifique. Je pense que cette exposition, ce projet d'exposition, moi, j'ai jamais rêvé d'être curatrice ou de commissarier, quoi que ce soit. Je me dis qu'en tant qu'artiste, ce que je peux faire pour eux, c'est les inviter à regarder peut-être, c'est quelque chose de modeste, hein, de regarder ce qu'ils sont, où ils sont, autrement que ce qu'ils doivent renvoyer comme image.
Mais quelle restitution ça prendrait ? Parce que ça voudrait dire que vous les porteriez à documenter leur vulnérabilité dans la situation où ils se trouvent là-haut.
Ou, la modestie, enfin, par la modestie, j'entends les objets usuels, la brosse à dents, quelque chose qui n'est pas dans l'héroïsme, quelque chose qui est dans un quotidien temporaire.
Oui, mais ils pourraient vous dire que c'est au contraire héroïque d'arriver à se brosser les dents dans ces conditions.
Eh bien, très bien, je le prends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur point de vue et sorti de la nécessité d'une image de l'image qu'ils véhiculent en tant que membre d'expédition, de mission à bord de l'ISS.
Mais ça prendrait donc des formes photographiques plutôt ?
Plutôt, puisqu'ils ont un matériel de haut vol sur place.
Ils sont déjà équipés.
Ouais. Et je me dis, il y a tellement de choses au centimètre carré. Qui a forcément la possibilité d'en faire autre chose, travailler peut-être dans l'idée de la nature morte et la sculpture in situ. Pour les moyens de production, évidemment, je pense qu'ils sont un peu secondaires, mais ils ont de quoi faire là-bas. Les imprimantes, photocopieurs, voilà, si on veut un support tangible. Et en ça, je me dis, le centre d'art en orbite à bord de l'ISS peut être le théâtre de la restitution, comme il peut être ailleurs.
Alors, mettons qu'il soit le théâtre de la restitution, comment vous organisez le protocole d'arrivée ? Déjà, pour quel type de visiteurs vous adressez donc ce corpus d'images qu'aura été produit par les astronautes ?
Est-ce qu'il est important de les déterminer, ces visiteurs ? Puisque moi, je me dis, dans le cadre d'un projet pédagogique, l'ayant fait notamment avec des bacs pro de différentes spécificités, moins érudits sur autant de champs que nos aimables astronautes, je me dis, ces projets, il faut les faire pour eux. Quand on est artiste et qu'on accompagne, on engage un projet pédagogique, c'est quelque chose qu'on tourne vers les autres. Il faut que les acteurs de ce projet s'y retrouvent. Donc, tout un chacun, humain ou non humain, est bienvenu pour cette restitution. Néanmoins, ceux qui doivent y trouver leur compte, c'est les acteurs.
Projet. D'accord, oui, mais faut-il qu'ils aient quelqu'un à qui adresser leur geste pour que ça compte pour eux, non ? Vous dites humain ou non humain, c'est-à-dire vous imaginez qu'ils pourraient faire des images qu'ils exposent à leur photocopieuse.
Par exemple.
D'accord.
Non, mais je veux dire, ce qui compte dans ce type de cheminement artistique, tel que je l'entends, c'est d'où on part, vers où on va et comment ça se passe. C'est-à-dire ce questionnaire, le questionnaire que j'imagine en point de départ, ciblerait des questions sur ce qui définit leur façon d'être à bord. Ce sera un questionnaire anonyme, ce sera un questionnaire qui aura une clause de confidentialité, ça ne sera jamais révélé, mais moi ça me permettrait de définir quoi leur proposer exactement pour amener un autre temps et un autre espace de réflexion à bord de l'ISS. Quelque chose qui soit un temps pour soi et en même temps qui puisse leur amener un ailleurs.
Combien de temps par jour vous leur prendriez pour ce projet par exemple ?
C'est une question qui peut être posée, c'est-à-dire combien de temps serait disponible pour eux sur ce projet. Je pense qu'il faut que ça soit... Il y a tellement il y a telle difficulté à imaginer la réalité de ce qu'ils vivent qu'il faut que ça soit un équilibre entre... Moi, je me dis, le temps d'une image, ça peut suffire. Si elle est pensée en amont, s'il y a quelque chose qui se passe, le temps de faire une image.
Ah oui, donc vous allez quand même animer un certain nombre d'ateliers pour accompagner leur...
Moi, je propose un cadre.
Oui.
Je propose un cadre à habiter, un cadre à investir, de façon à produire peut-être une image la plus juste possible sur ce qui fait cette vie à bord.
Parce qu'on parlait tout à l'heure d'une opportunité de détourage à échelle cosmique. On la retrouve un peu, là ?
Je pense oui, effectivement. Là, du coup, le détourage cosmique prend tout son sens. Mais si je peux ajouter quelque chose, parce que depuis le début de cette réflexion sur cette exposition à bord de l'ISS, je me suis dit, si j'étais commissaire là-haut, je ferais un truc vache.
Vache pour qui ?
Vache dans le sens où peut-être j'aurais peur d'être cruelle par rapport aux primos occupants que sont ces acteurs.
Ouais.
C'est-à-dire que ce qui me frappe à bord, et ça serait une redondance par rapport à l'ISS, c'est de ramener des choses qu'il évoque dans des œuvres d'art. Je pense notamment à l'enfermement. Vito Acconci, Robert Morris. Je pense aussi à des machines fabuleuses comme Panamerenko ou l'expérience terrible qu'a raconté Luca Parmitano quand il a manqué de se noyer au retour d'une sortie extravéhiculaire. Ça serait enfoncer une porte ouverte puisque ça évoque. C'est un reflet, un miroir par les œuvres de ce que la réalité de l'ISS m'évoque en tant que cadre de vie et de réflexion.
Oui, parce que finalement, ça reviendrait à faire un voyage de 23 heures pour se retrouver dans un mobile de 75 mètres cubes pour voir des images d'enfermement.
C'est ça.
Oui, donc ça vous paraît un peu absurde.
Et vache.
Donc vous préférez le projet pédagogique avec les astronautes pour
ça. Je pense, et puis ça peut être assez fabuleux de proposer quelque chose qui n'est pas d'autre fonction que d'un temps pour soi, sur soi, pour montrer autre chose.
Sur Terre, quand on monte un projet pédagogique artistique, on doit chercher des financeurs. quel type de financeurs vous pourriez chercher pour
Alors, dans la réalité concrète du terrain, ce sont les porteurs de projets qui ont ce plaisir. Et on va leur laisser. Quel type de financeurs ? On peut y revenir dans quelques instants.
D'accord, pour chercher des mécènes. En attendant, l'astronaute canadien Chris Hadfield, qui a été commandant de l'ISS pendant l'expédition 35, a créé un SoundCloud sur lequel on peut entendre le son de la pompe interne de la combinaison spatiale. Chris Hadfield vous fait entendre ce son. Vous lui proposez d'intégrer à l'exposition sous quelle modalité ?
On était parti sur un projet photographique, mais le son et d'autres formes sont bienvenues. Moi, je proposerais de produire une image associée à ce son qui ne révèle pas sa nature, mais vient en contrepoint.
Parce que vous évoquiez tout à l'heure l'idée d'investir les couchettes aussi comme un espace artistique.
Oui, parce qu'il y a cette idée du temps pour soi au travers de ce projet pédagogique, de se dire, de constater en fait par les informations disponibles sur Terre que la vie d'une personne en mission sur l'ISS est quand même extraordinairement bien remplie, que le temps de vacuité, de disponibilité personnelle est assez réduit quand il n'est pas lié au sommeil ou un temps où on n'est pas disponible en tant que tel, avec sa conscience. Moi, je pense que n'importe quel endroit, à partir du moment où il est choisi et que quelque chose est pensé pour l'habiter avec des œuvres ou avec des productions plasticiennes, peut devenir centre d'art. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'habiter le cylindre proposé. Peut-être que ça peut être l'atelier, justement. Peut-être que centre d'art peut devenir l'atelier de réflexion, de production, c'est possible.
Et puisqu'on parle d'une entrée pas par le son, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans les audioguides ?
Ah, les audioguides, c'est quelque chose de très sérieux. Non, mais l'audioguide, c'est celui qui vous accompagne, qui vous aide à voir ce que vous ne voyez pas ou qui enfonce les portes ouvertes et qui vous irrite. Je pense que l'audioguide, c'est un travail littéraire à part entière. Donc peut-être que ça pourrait faire partie des consignes de travail pour le projet pédagogique, de penser une production littéraire ou en tout cas rédigée de façon à intégrer l'audioguide.
Mais à vous entendre, ça voudrait dire que c'est un audioguide qui pourrait déborder en durée le temps même de la visite de l'exposition, alors ?
Complètement. Ça pourrait même être un...
Commencer sur Terre.
L'audioguide pourrait être une façon d'explorer l'exposition à partir de la Terre ou d'ailleurs. Qu'on ait un récit qui repose ou s'extrait du résultat visuel, c'est une autre façon d'activer la production.
Et ça vous aide à trouver une réponse à la question antérieure sur les mécènes?
Pas du tout.
D'accord. Et comment vous imaginez les enregistrements du studio cosmique dans l'ISS?
Bruyant.
Ah ouais?
Oui, mais non seulement, cet enfermement, l'étroitesse des lieux, l'architecture tubulaire, ça me fait très peur. Je suis très contente au milieu de la steppe. Hein, plus on voit loin, mieux ça va. Et le bruit de toute l'ingénierie. Je pense que sur, on parlait du tourisme spatial tout à l'heure, sur le temps d'une semaine ou le voyage de Tom Cruise. On se dit, bon, on s'y fait, on s'adapte, on prend sur soi. Mais ce qui reste 6 mois, ce bruit, il est terrible. La question que je me pose et que j'aimerais leur poser, c'est est-ce qu'on l'oublie?
Est-ce qu'on finit par oublier le bruit en question? Ouais. Ouais. On peut se poser la question sur Terre aussi. Hein.
Tout dépend d'où on vit.
C'est vrai. On a un artiste mystère qui a une proposition à vous faire.
Bonjour Sylvie Bonneau, j'aimerais vous proposer un body painting. J'imagine qu'une personne serait habillée d'une combinaison blanche où seraient imprimés quelques motifs géométriques avec des formes de satellites. Et en impesanteur, je viendrais comme ça compléter le tableau vivant avec des couleurs noir, bleu, jaune, violet, exprès pour faire écho à l'environnement cosmique. Est-ce que ça pourrait vous intéresser?
L'artiste vient avec la combinaison?
Je suppose, ouais. Enfin, la combinaison et la personne sur qui la mettre.
Je ne l'ai pas vu venir.
Non, mais... Ce qui peut être bon signe.
J'inviterai l'artiste, dont la proposition est tout à fait intéressante, à soumettre des schémas
oui.
Pour en vue d'un oral, d'un entretien. Voilà.
D'accord.
La porte n'est pas fermée.
D'accord, donc vous ouvrez un dialogue avec cet artiste.
Nous ouvrons le dialogue.
D'une manière générale, vous entameriez quel type de dialogue avec des jeunes artistes qui voudraient exposer dans l'espace, au-delà de ce cas précis?
Évidemment, la question des raisons de la chose, hein, en quoi ça résonne de façon personnelle pour eux ou de façon purement objective. Compte tenu du nombre d'artistes qui contribuent, par exemple, à l'Observatoire de l'espace, j'imagine qu'il y a d'innombrables pistes de recherche. Moi, je trouve ça fabuleux que des jeunes artistes s'intéressent à la chose et choisissent de se lancer dans un domaine qui comporte quand même beaucoup aussi de spécificités sémantiques, un langage, une architecture, un rythme, et qui est très éloigné du rapport tangible et physique. Moi, c'est ce que je suis allée chercher à Baïkonour. À un moment, il y a ce besoin de saisir, sentir, voir, éprouver.
Vous avez fait vos études à l'École nationale des beaux-arts de Dijon.
Oui.
Ça vous a manqué qu'il n'y ait pas un enseignement d'art spatial?
On pourra vous dire que dans la mesure où la performance, l'installation, au même titre que la vidéo, la photographie, était entre guillemets enseignée, puisqu'à cette époque, l'enseignement était entre guillemets une conséquence du projet de l'étudiant. À partir du moment où le projet défendu nécessitait des capacités physiques, techniques ou spatiales, on les produisait. J'aurais aimé voir de quelle façon on pouvait répondre à ce besoin d'ailleurs sur place à cette époque.
Alors avant de vous demander quelle œuvre vous pourriez créer qui pourrait rester dans le centre d'art et intégrer sa collection permanente, voici la réponse que nous a faite au dernier enregistrement Stéphane Tidé.
En tant qu'artiste, je développerai un système de protocole.
D'accord.
Et d'invitation, ouais.
Donc par exemple, tous les 12 avril, pour le Yuri Day, vous pourriez accueillir
des artistes
qui auraient testé.
Voilà, je dirais, je fonctionnerais comme un commissaire ou un DJ en tant qu'artiste, mais pas comme, plutôt avec des manières de penser. Mais je ne laisserai pas, moi, une œuvre, je crois pas.
Et vous, Sylvie Bonneau, alors quelle œuvre vous pourriez laisser?
Alors moi, j'ai pas pu écraser un rouble à Baïkonour, mais j'ai pu écraser une vierge à Kourou. Sous la forme d'une médaille. Donc, je vous propose de découvrir cet objet que j'ai apporté.
Donc là, vous avez dans les doigts une médaille assez grosse.
Oui, c'est une...
Pas tout à fait régulière en épaisseur.
C'est le passage de Soyouz qui a créé cet aspect oblong. Je vous laisse la découvrir.
D'accord. Donc, elle c'est lourd quand même.
Elle est un peu dorée.
Et vous dites que c'est une vierge. C'est vous qui l'aviez apportée? Non, j'ai... Où elle était là?
Je l'avais avec moi, puisque, indépendamment de toute ma volonté et de mon désespoir à Baïkonour de ne pas avoir pu écraser mes roubles, j'avais rapporté mes roubles en prévision de les écraser à Kourou. Je suis Soyouz pour Soyouz, Kazakhstan, Guyane. L'intention est la même, le résultat devrait l'être. Et toujours est-il que je n'avais sur moi que cette médaille qu'on m'a un jour donnée comme Grégory. Donc je n'avais que ça à écraser. Je n'avais qu'une vierge à écraser.
Et comment est-ce que vous pourriez l'exposer dans l'ISS?
Alors tout dépend.
Elle serait encadrée ou pas?
Ah non, non, je pense qu'elle pourrait être.
La jetteriez comme ça.
On pourrait se faire mal.
Bah oui.
Elle est lourde, hein, pour ce que c'est.
Oui.
Et puis en fait, moi, la raison pour laquelle je propose cet objet, c'est qu'en fait, on voit les traces de l'écrasement. Le passage du lanceur qui a permis d'acheminer non pas des humains sur ce vol-là, mais du cargo et même pas du cargo, c'était des satellites, c'était pour une constellation. Toujours est-il que je pense que ces pièces écrasées, elles marquent quelque chose de l'ordre de l'interface entre l'état, le changement de support habitable, la Terre ou pas.
Eh bien, merci beaucoup. Sylvie Bonneau, on prend cette médaille de vierge écrasée pour votre œuvre à intégrer dans la collection permanente de l'ISS.